nous nous retrouvons pour une série
consacrée. Nous attachons à quatre faits marquants de votre vie.
On passe une demi-heure ensemble pour...
Focus braque aujourd'hui son projecteur.
Focus. Une émission de la rédaction de Canal Académie.
On retrouve Bruno Dussossois.
Bonjour. Il paraît que le rugby est un sport de voyous pratiqué par des gentlemen. On aura l'occasion de le vérifier ou pas lors de la 7e Coupe du Monde de rugby de l'histoire qui se déroule en Nouvelle-Zélande du 9 septembre au 23 octobre 2011. On pourra voir sur le dos des joueurs des maillots et sur ces maillots de couleurs différentes, on verra de curieux écussons, les blasons. Dans cette émission, je vous propose de partir à la découverte de ces emblèmes et de ces couleurs en compagnie de l'historien Michel Pastoureau. Bonjour.
Bonjour.
Michel Pastoureau est spécialiste d'héraldique, qu'il rencontra pour la première fois au printemps 1960, comme il le raconte dans son dernier livre « Les couleurs de nos souvenirs ». Un professeur de dessin de lycée lui fit alors copier un vitrail armorié du XVIe siècle. Plus tard, élève à l'école des Chartes, il fera sa thèse sur le bestiaire héraldique médiéval. Mais au fait, que signifie ce mot savant, l'héraldique ? Pour le dire simplement, c'est l'étude des blasons et des armoiries. Voilà qui nous ramène en plein Moyen-Âge, me direz-vous. À l'époque des batailles et des tournois où les armoiries, apparues au XIIe siècle, permettaient de reconnaître les combattants. Et ce faisant, nous éloigne de notre sujet. Eh bien, détrompez-vous, l'héraldique a marqué durablement de son empreinte nos sociétés. Voyez les drapeaux, les uniformes, les étiquettes des bouteilles de vin, les logos des partis politiques et même les maillots des sportifs. Tous ces objets symboliques ont une histoire que les historiens auraient tort d'ignorer. Il convient donc de les analyser à la lumière de la longue histoire de l'héraldique dont ils sont issus. C'est donc d'héraldique sportive qu'il sera question dans cette émission, qui se voudrait à la fois instructive et récréative. Comme vous êtes historien, Michel Pastoureau, commençons peut-être par la question des origines. Le rugby, comme chacun sait, est né en Angleterre dans un collège au nord-est de Londres, le collège de rugby. Tout au moins, c'est là qu'il a pris son essor, car l'origine de l'invention du rugby au début du XIXe siècle est controversée. Mais laissons cela aux Anglais. Ce qui nous intéresse, c'est l'origine des blasons et des couleurs dans le rugby. Or, il semble bien qu'il faille se tourner là encore de l'autre côté de la Manche, à croire que les Anglais ont décidément tout inventé.
Les Anglais et peut-être plus encore les Écossais. Les débuts du sport au XIXe siècle, enfin Dieu, ce que nous appelons nous le sport, se passent à la fois en Angleterre et en Écosse. Et même si le rugby est né géographiquement en Angleterre, il s'est d'abord développé en Écosse et notamment dans les collèges universitaires écossais, ce qui fait que l'emblématique des collèges en Écosse, mais aussi en Angleterre, a eu une grande influence sur l'emblématique sportive et sur les terrains de sport avant la Première Guerre mondiale.
Ce qui donnerait raison à George Bernard Shaw qui disait que Dieu vienne en aide à l'Angleterre le jour où elle n'aura plus les Écossais pour penser à sa place.
Oui, d'ailleurs, d'un point de vue général, quand on fait le bilan de ce que les Écossais ont inventé dans tous les domaines, c'est assez vertigineux, à commencer par la machine à vapeur de Watt qui conditionne toute l'apparition du chemin de fer.
Alors passons en revue quelques-uns des blasons des 20 équipes qualifiées pour la phase finale de la Coupe du Monde. Alors commençons peut-être par les pionniers, disons l'Angleterre. L'Angleterre, alors c'est une rose.
C'est une rose, l'Angleterre joue en maillot blanc, une des couleurs de son drapeau qui est tricolore, bleu, blanc, rouge. Et puis elle a comme logo, badge, emblème, blason, une rose. C'est une allusion à un des emblèmes du royaume d'Angleterre, bien documenté depuis la fin du Moyen-Âge, la rose, qui peut être blanche ou qui peut être rouge, selon les gouvernements et les dynasties qui règnent. Donc elle a traversé les siècles et c'est un végétal. C'est intéressant parce que quatre équipes britanniques en sport, et notamment en rugby, ont pour emblème un végétal, alors que beaucoup d'autres ont un animal.
Cette rose, est-ce qu'elle ne symbolise pas aussi la fin de la guerre des deux roses ?
Oui, elle a connu son heure de gloire dans le troisième quart du XVe siècle, au moment de la guerre des deux roses.
C'était une guerre civile. Hein.
Une guerre civile entre deux dynasties, les York et les Lancastre. Les York avaient pour emblème une rose blanche, les Lancastre une rose rouge. Tour à tour, chacune a pris le dessus. Et pour un œil extérieur, elle est définitivement devenue, cette rose, à côté du léopard héraldique, l'emblème de l'Angleterre.
Vous avez dit qu'il y a d'autres équipes qui ont un emblème végétal. Alors prenons le cas de l'Écosse, par exemple.
Alors l'Écosse a pour emblème le chardon. L'Écosse joue en maillot bleu et même bleu foncé, traditionnellement, dans tous les sports. Et en rugby, a pour emblème logo blason le chardon. Là encore, c'est une tradition née sur les marges de l'héraldique écossaise pour la famille royale, les Stuarts et même avant les Bruces, depuis le XIVe siècle. Le chardon est l'emblème de l'Écosse. Il est probablement antérieur à la rose.
Rappelons, le chardon est très présent dans les hautes terres.
Voilà, alors on ne sait pas très bien pourquoi le chardon est un emblème héraldique écossais ou para-héraldique. On convoque la flore locale et la présence de chardon dans les Highlands, ce qui n'est pas complètement faux, mais ce qui n'explique pas tout.
Alors venons-en à l'Irlande. L'Irlande, ce sont trois feuilles de trèfle.
Voilà, les Irlandais, dans tous les sports, s'affichent en maillot vert et ont pour emblème le trèfle. Là encore, c'est très ancien, mais pas aussi ancien, semble-t-il, que la rose anglaise et que le chardon écossais. Ça remonte, semble-t-il, probablement au XVIIe ou au XVIIIe siècle. Ici encore, on ne sait pas très bien pourquoi. On convoque les vertes prairies anglaises et l'opposition entre un végétal irlandais contre un végétal anglais. Ça n'est pas faux, mais il y a certainement d'autres raisons plus strictement héraldiques, notamment le fait que ce soit un trèfle, c'est-à-dire une plante en trois parties, en quelque sorte, pourrait inviter à y voir les trois composantes de la nation irlandaise, le substrat celtique, l'apport anglais, et puis les gens venus du Nord, les Vikings et même les Écossais installés en Irlande.
Et ça pourrait évoquer aussi, je crois, j'ai lu quelque part, le mystère de la Trinité.
Oui, qui est l'objet de cultes particuliers en Irlande. Les églises de la Sainte Trinité sont très nombreuses. Le collège le plus prestigieux à Dublin s'appelle Trinity College. Donc ça peut être en effet un végétal qui évoque la Trinité.
Parce que ces trois feuilles de trèfle auraient été celles utilisées par Saint Patrick pour expliquer le mystère de la Trinité.
Le saint patron de la nation irlandaise. Oui.
Alors de l'Irlande, partons au Pays de Galles, qui est représenté par quoi ?
Alors, c'est plus étonnant, le Pays de Galles, qui joue en maillot rouge, s'affiche avec un emblème en forme de poireau, ce qui peut sembler, sur le continent, mais dans les îles britanniques même, quelque peu dépréciatif. Et l'origine de ce poireau reste énigmatique. J'ai une opinion personnelle.
Allez-y.
Au Moyen-Âge et encore au début de l'époque moderne, le prince de Galles, héritier du trône d'Angleterre, mais qui, avant de monter sur le trône, n'est que le fils aîné du roi et chargé du titre de prince de Galles, a pour emblème personnel des plumes d'autruche. Et graphiquement, on voit ces plumes d'autruche, au nombre de trois, se transformer en une espèce de végétal qui évoque plus ou moins un poireau parvenu au terme de sa maturité, et je pense qu'on est graphiquement passé des plumes d'autruche au poireau entre le XVIe et le XVIIIe siècle, en tout cas au XIXe siècle déjà, le poireau est bien l'emblème du Pays de Galles, avec le dragon et avec la couleur rouge.
L'autruche dont vous venez de parler, c'est un emblème que l'on retrouve avec le kangourou sur un autre maillot, celui des Wallabies,
les Australiens, qui jouent traditionnellement en maillot vert et souvent même dans un magnifique vert, gris-vert si je puis dire. Pour la prochaine Coupe du Monde de rugby, ont décidé de ne pas porter leur maillot vert parce qu'il pourrait se confondre avec celui qui est vert également de l'Afrique du Sud, et ont choisi un maillot jaune, un maillot d'or, pensant qu'il va leur porter chance.
Avec des liserés verts, je crois.
Avec des liserés verts quand même, pour rappeler le vert traditionnel de l'Australie. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Changer la couleur traditionnelle, mythologique même, d'un maillot, c'est un aveu de faiblesse ou c'est une invasion parfois du marketing et d'éléments extra-sportifs. Moi, je suis partisan de la permanence et de la tradition des couleurs habituelles.
Héraldique, presque.
Héraldique pour beaucoup. Le sport a besoin de mythologie. C'est pour ça que les sports récents ont tant de mal à percer. Ils n'ont pas assez d'ancienneté, ils n'ont pas de palmarès, ils n'ont pas de mythologie. Ce ne sont pas vraiment des sports. Et donc, rompre les traditions habituelles, mythologiques, ça affaiblit les clubs ou les équipes qui le font.
Et une équipe qui, pour le coup, est mythique, c'est celle des All Blacks, ce qu'on appelle aussi les Flèches Noires. Alors, quel est leur emblème ?
Alors, ils jouent en maillot noir. Au tout début, les joueurs de rugby néo-zélandais jouaient en noir et blanc. Puis le maillot est devenu tout noir au début du XXe siècle. Et leur emblème est la fougère. Et je vous avoue que dans tout ce que j'ai lu pour expliquer le choix de cet emblème, je n'ai rien trouvé de très convaincant. Je ne sais pas quelle est l'explication dominante en Nouvelle-Zélande.
Je crois que là encore, comme le chardon en Écosse, en tout cas, on en retrouve beaucoup de variétés sur l'archipel des fougères.
Voilà, oui, c'est des explications.
Mais c'est un peu
positivistes. On va convoquer la flore locale pour expliquer le choix d'un végétal. En tout cas, on voit bien qu'on est dans un système britannique ou anglo-saxon. Encore une fois, un végétal, alors que la France, l'Australie et l'Afrique du Sud ont pour emblème un animal.
Alors l'Afrique du Sud est caractérisée par quel emblème ?
Donc l'Afrique du Sud qui a un drapeau aujourd'hui polychrome, pourrait-on dire, très beau d'ailleurs.
Et un drapeau arc-en-ciel.
Voilà, et un maillot à dominante verte, mais aussi avec des parements jaunes et parfois d'autres couleurs, a pour emblème logo un animal, une antilope sauteuse d'un type particulier. Qui s'appelle le Springbok, qui se prête à une stylisation graphique très séduisante et qui fait écho d'ailleurs au kangourou sauteur de l'Australie, le wallaby. On a là un bestiaire, en quelque sorte, propre à ces deux pays de l'hémisphère sud.
Et puis, il y a aussi une fleur, la fleur Protea, je crois, sur cet emblème.
Oui, quelquefois, on ajoute, parce que c'est comme c'est une nation qui est pluriethnique, évidemment, maillot et emblème, le maillot est plus polychrome, mais les emblèmes sont plus nombreux.
Venons-en maintenant au 15 de France. Chacun sait, c'est un coq.
C'est un coq. Ce qui est intéressant au fil des décennies, c'est que ce coq, qui est un des emblèmes officieux de la France, n'a pas de statut officiel.
Et même peut-être de la Gaule ?
Oui, il vient de très loin. Ce sont les Romains qui, les premiers, ont associé la Gaule au coq en raison d'un jeu de mots en latin. Le nom du coq, c'est Gallus. Le nom de la Gaule, c'est Gallia. Il y a un jeu de mots.
Ce sont des homonymes.
Voilà. Et donc, c'est un emblème qui vient de l'extérieur, que la France a fini par assumer. Le coq s'est compromis avec tous les régimes, en tout cas avec la monarchie et avec la République. Donc il est relativement consensuel, mais il n'a pas de statut officiel comme le drapeau tricolore. Il n'y a pas un texte constitutionnel qui dit « le coq, c'est l'emblème de la France ». Mais souvent, les étrangers croient que c'est un emblème officiel. En tout cas, au XXe siècle, il était présent sur les maillots de nombreux sportifs et puis il a disparu de certaines équipes, notamment des footballeurs, par exemple, qui étaient longtemps les coqs et sont devenus les bleus. Et au contraire, les rugbymen, pendant très longtemps, ont résisté, et eux étaient les coqs, ils ne sont pas devenus les bleus, et même l'usage voulait que chaque fois que l'équipe nationale française en rugby jouait à l'étranger, on lâche un coq sur le terrain, un coq vivant. Cet usage s'est perdu, mais à l'historien, il rappelle qu'en France, le rugby est un sport surtout rural et le football un sport urbain. Ces différences aujourd'hui ont disparu, mais jusqu'aux années 1950, c'était une différence qui était très très nette.
Et on dit que le coq serait symbole de fierté, c'est vrai ou c'est une...
Oui, dans les traditions médiévales et encore modernes, le coq est associé à la fierté, à l'orgueil, mais aussi au courage. Il défend ses poules, il n'hésite pas à s'attaquer à plus fort que lui. À plusieurs reprises, des gouvernants, notamment Bonaparte devenu Napoléon Ier, cherchant un emblème pour l'empire qu'il allait fonder, a pensé un moment au coq, ou plutôt son entourage, mais par rapport à l'aigle germanique, l'aigle russe, ça semblait un oiseau bien fragile. Et pourtant, il a vaillamment combattu ce coq gaulois pendant la Première Guerre mondiale, pendant la Deuxième Guerre mondiale, dans la guerre de propagande, et sur les terrains de sport, donc, même s'il est plus discret qu'il y a 50 ans, il représente encore la France sous des formes stylisées, par exemple celui qui sera choisi pour le maillot des rugbymen en Nouvelle-Zélande, des rugbymen français, c'est un presque coq. Au premier regard, on ne voit pas tout de suite que c'est un coq.
Allons maintenant de l'autre côté des Alpes. Nous étions avec les Bleus, on retrouve des Bleus.
Oui, la France n'a pas le monopole du jeu en bleu sur les terrains de sport. Le bleu est présent dans son drapeau. Les Italiens, depuis un siècle, jouent en maillot bleu dans tous les domaines du sport, alors qu'il n'y a pas de bleu dans le drapeau. C'est un problème assez étonnant. On peut recenser d'ailleurs les équipes nationales qui jouent dans une couleur qui n'est pas présente dans leur drapeau. Elles sont peu nombreuses. Il y en a quelques-unes, mais il n'y en a pas beaucoup. La Slovénie, récemment devenue indépendante, joue en vert alors qu'il n'y a pas de vert dans son drapeau. Donc eux le font depuis la fin du 19e siècle. Mais il y a quand même une explication historique, c'est que le bleu était la couleur de la maison royale de Savoie, qui a régné sur le royaume d'Italie à partir de 1860. Et donc, ça doit expliquer le choix du bleu pour les maillots italiens, en tout cas toutes les équipes italiennes.
Ce serait un bleu royal, alors.
Alors, au début, c'était un bleu moyen, un bleu roi. Puis, au fil des décennies, il a tendance à se foncer, et puis aujourd'hui, au contraire, à s'éclaircir. D'autant qu'en italien, il y a deux mots pour dire bleu, deux mots d'usage courant, blu et azzurro. Et on ne peut pas dire vraiment que azzurro soit toujours bleu clair, ce n'est pas vrai.
D'ailleurs, on les appelle les azzurri.
Oui, la squadra azzurra, qui est prestigieuse. D'ailleurs, si on fait un bilan, les résultats des sportifs italiens, c'est impressionnant dans l'histoire du sport.
Et sur ce maillot des Italiens, il y a, je crois, deux lauriers.
Alors, il y a deux branches de lauriers. Oui, comme ce sont des nouveaux venus, si je puis dire, dans le monde du rugby et surtout dans le tournoi maintenant des Six Nations, ils ont pris un emblème végétal pour faire comme les équipes britanniques, pensant que ça leur porterait chance. C'est encore un petit peu en retrait, mais je crois que ça va venir et que dans 10 ou 15 ans, les Italiens seront au même niveau que les cinq autres équipes. Dans d'autres sports, l'emblème logo de l'Italie, c'est une étoile. C'est l'emblème officiel de la République italienne. Ça n'est pas très original, mais on la voit assez souvent sur les maillots italiens.
Donc il n'y a rien dans ces deux lauriers qui évoque, je ne sais pas, l'héritage de la Rome impériale.
Un petit peu, si, c'est les lauriers décernés aux vainqueurs et espérons que ça porte chance à nos amis italiens.
On peut essayer aussi de s'intéresser à l'Argentine avec les Pumas argentins, alors eux qui ont un jaguar.
Alors voilà, comme deux autres équipes de l'hémisphère sud, un animal et non pas un végétal, et l'animal félin pratiquement invincible de l'Amérique du Sud, le jaguar.
Alors que, je répète, on les appelle les pumas.
Alors qu'on les appelle les pumas, mais peut-être que dans le lexique, les lexiques indigènes, les animaux se confondent. En tout cas, les Argentins, eux, jouent en maillot bleu, mais en maillot bleu ciel. Il n'y a pas beaucoup de pays indépendants qui définissent par un nuancier les couleurs de leur drapeau. En général, ce sont des couleurs intellectuelles, abstraites et la nuance qu'on ne peut. Dans le drapeau français, la nuance du rouge et la nuance du bleu n'est pas définie. D'ailleurs, aux intempéries, elles changent beaucoup. Mais comme l'Uruguay, comme Israël, comme d'autres pays, l'Argentine définit son bleu et c'est un bleu clair, un bleu ciel.
Et est-ce qu'on peut retrouver des couleurs plus que d'autres, justement, pour se limiter au rugby, là, des 20 équipes qui participent à la Coupe du Monde ?
Oui, si on fait des statistiques sur les couleurs des maillots, donc il y a 20 équipes réparties en 4 poules de 5, on s'aperçoit que le rouge et le bleu sont les couleurs dominantes. Je crois qu'on va arriver à un total de presque 14 équipes qui jouent soit en rouge, soit en bleu, soit en rouge et bleu, soit en blanc et rouge, soit en blanc et bleu. Il y a 3 équipes en vert, l'Irlande, l'Afrique du Sud, et il y avait l'Australie donc, qui a abandonné le vert pour le jaune. Donc il n'y aura pas 3 équipes, mais 2 en vert, et 2 en jaune, la Roumanie, et donc maintenant l'Australie, qui appelle son maillot d'ailleurs non pas jaune, mais or.
Quand on peut remarquer que seule l'équipe des Néo-Zélandais de la Nouvelle-Zélande est désignée en fonction d'une couleur.
Oui, les blacks. En football, c'est peut-être plus fréquent qu'en rugby. C'est plutôt en rugby le logo qui désigne, donne un nom ou un surnom à l'équipe.
Oui, par exemple, le 15 de la Rose.
Le 15 de la Rose, les Springboks, les Wallabies, mais les blacks. Ça a été possible d'ailleurs parce que en rugby, les arbitres, qui étaient des hommes en noir pendant quelque temps, ont rapidement adopté la couleur, ce qui n'a pas été le cas en football, où ils sont restés en noir beaucoup plus longtemps, ce qui interdisait aux équipes présentes sur le terrain de jouer en tenue noire. En rugby, le problème ne se posait plus à partir du moment où les arbitres ont arboré short blanc, maillot rouge, maillot vert, maillot jaune. Ça s'est accentué d'ailleurs depuis que le sport est télévisé. La télévision a un peu perverti ou transformé les pratiques colorées sur les terrains de sport.
Parlons de l'arbitre, l'homme en noir. Quel pouvoir cette couleur donnait-elle à l'arbitre ? Parce qu'effectivement, maintenant, il est de moins en moins habillé de noir. Et puis, l'arbitre a-t-il toujours porté, au fait, une tenue noire ?
Non, dans les débuts du sport, l'arbitre joue souvent dans sa tenue de tous les jours. Il n'a pas un costume particulier. Parfois, il est choisi au dernier moment par les spectateurs. Puis, peu à peu, quand le sport s'organise et se professionnalise aussi, il y a des arbitres qui font ça, non pas à temps plein, mais fréquemment. et qui porte une tenue particulière, qui est souvent rayée blanche et noire pendant longtemps, dans les débuts de sport, jusqu'à la Première Guerre mondiale. C'est resté en usage d'ailleurs dans la boxe, dans le basket, dans le hockey, pendant très longtemps, ce maillot rayé noir et blanc. Et puis dans d'autres compétitions, c'est le maillot noir, et sur les terrains de football, c'est le célèbre enban noir, jusqu'aux années 1970-80. Là encore, c'est la télévision qui a obligé l'arbitre à adopter une tenue plus remarquable, en couleur vive. Et je suis persuadé que quand les arbitres ont cessé d'être des hommes en noir, ils ont perdu une part de leur autorité. Le noir, c'était la couleur des juges, des magistrats, une couleur autoritaire. Ils sont moins respectés, c'est vrai qu'autrefois, et je pense qu'une des raisons, c'est parce qu'ils ne sont plus en tenue noire. Ça n'est pas la seule, bien sûr.
Et à ce propos, justement, du noir qui a une couleur de l'autorité, il semble quand même avoir de beaux restes, à en juger par le nouveau maillot choisi par le club de football de Barcelone, le maillot pour ses matchs à l'extérieur, parce qu'il sera complètement noir. Comme si le Barça, qui domine la scène espagnole et européenne depuis 3-4 ans, avait besoin de ce noir pour s'imposer encore plus.
Peut-être, oui, pour effrayer l'adversaire. Le Barça, c'est le triomphe des joueurs de petite taille, qui ne pratique pas un jeu spécialement agressif et vigoureux, mais plutôt subtil et fait de finesse. Ce maillot noir va leur donner plus de puissance, sans doute. Est-ce que ce sera suffisant maintenant que le Barcelone est au pinacle? Il ne peut que redescendre.
Le noir a une dimension autoritaire. Il y a d'autres couleurs qui ont un pouvoir, semble-t-il, un peu magique. Pour cette nouvelle Coupe du Monde, cette 7e Coupe du Monde, le 15 de France a fait le choix de réunir deux maillots en un. Alors je m'explique. Il y a le nouveau maillot français qui est le résultat d'un dégradé bleu roi, bleu nuit, qui est censé rappeler les victoires de la France contre la Nouvelle-Zélande lors des Coupes du Monde 1999 et 2007. En 99, les joueurs français portaient une tenue bleu roi. En 2007, elle était bleu nuit. Comme si la réunion de ces deux tons pouvait permettre aux Bleus de rééditer leurs exploits. Et puis, de leur côté, les All Blacks ont choisi d'agrémenter leur nouveau maillot d'un col blanc en hommage aux générations précédentes, dont celle qui a gagné la première Coupe du Monde en 1987, c'était en Nouvelle-Zélande. Alors, c'est attribué bien des pouvoirs à la couleur, non ?
Oui, il y a un peu de superstition là derrière, il y a le respect des traditions, ou au contraire, la rupture avec les traditions. Il y a aussi, et c'est peut-être le plus important, la puissance des équipementiers qui font des coups de publicité et qui vendent des dizaines de milliers de maillots à l'occasion de tel ou tel grand événement sportif, et qui cherche à ce que ces maillots se remarquent. Donc on cherche à rompre la tradition, à faire quelque chose de plus flashy, etc., etc. D'où, pour l'équipe de France, par exemple, en rugby, mais aussi dans d'autres domaines, des maillots bleus qui sont passés à partir des années 70 par toutes sortes de nuances de bleu, alors que pendant 5, 6, 7, 8 décennies, les Français jouaient dans un maillot bleu foncé. Et puis il s'est éclairci, puis après il a foncé de nouveau, rééclairci, en dégradé. Aujourd'hui, les tissus synthétiques et les pratiques de teinture autorisent des jeux d'une subtilité telle. Je ne suis pas sûr que ce soit très bon pour le sport. Moi, je suis partisan des couleurs franches et unies. Il y a des choses parfois abominables qu'on voit sur les terrains de sport, notamment à cause du caractère synthétique du tissu.
Et justement, donc, ce caractère synthétique, ces maillots synthétiques, selon vous, donc, dégradent la qualité de la couleur, c'est ça ?
Oui, c'est ça. Quand c'était de la laine ou du coton, la couleur était beaucoup plus franche. Et pour les adolescents, par exemple, qui s'intéressaient au sport, qui collectionnaient les images, il y avait quelque chose de ludique, de classificatoire. Aujourd'hui, comment classer, par exemple, les maillots des équipes professionnelles en rugby et en football qui sont pas du tout monochromes, mais polychromes, avec des logos de toutes sortes, des dégradés d'images qui changent parfois d'un match sur l'autre? De ce point de vue-là, le sport n'est plus le sport.
Revenons un peu sur le terrain. Pour cette nouvelle saison et sur le terrain de football, le club de foot de Milan AC a choisi de revenir au maillot de 1901, date du premier Scudetto du club lombard. Et il conserve en revanche ses couleurs rouge et noir, mais il comporte plus de rayures. Et puis surtout, il y a le nouveau maillot extérieur de l'équipe de France, de football toujours, dévoilé au printemps, la fameuse marinière. Alors, je vous propose d'écouter à ce sujet la vidéo de présentation vantant les mérites du nouveau maillot des tricolores. Ce que l'on y entend est plus intéressant que ce que l'on y voit. On reconnaîtra Laurent Blanc et Alou Diarra, respectivement sélectionneur et capitaine de l'équipe de France, et puis Patricia Romaté, directrice d'études à l'Institut français de la mode.
Quand j'ai vu le maillot pour la première fois, le visuel de ce maillot m'a plu de suite.
La première fois que j'ai vu, je suis waouh, parce que c'est vraiment un maillot qui tape à l'œil.
J'étais persuadé que sur le maillot extérieur, l'équipe Manchie allait pouvoir un petit peu dépoussiérer les choses. Donc d'avoir eu l'idée de reprendre cette marinière pour créer un maillot de football, je trouve l'idée géniale.
La marinière, on pourrait dire que c'est un vêtement qui est ancien, puisqu'il il est apparu au 19e siècle. Et ce qu'il caractérise, c'est que c'est un vêtement pour les marins. Aussi, ce qui est finalement une de ses caractéristiques, c'est ce côté rayé, ce côté graphique, blanc et bleu. Et la légende dit qu'à l'origine, c'était pour repérer un marin qui risquait de tomber à l'eau.
Pour reprendre un petit peu les valeurs françaises ou les principes français à l'étranger, cette marinière est tout à fait représentative.
C'est un élément du patrimoine culturel national. Ça en fait, en tout cas, une dimension très, très forte.
Il va dans le sens du maillot de domicile avec cette forme un peu cintrée. Mais ce n'est pas osé parce que ça nous représente. Ça. La marinière, ça fait partie de notre patrimoine, nous, les Français.
Un maillot hyper bien taillé. En étant aussi élégant, il faut la victoire après. Et après, ça peut devenir un maillot historique. Les mots qui me viennent à l'esprit, c'est sobre, élégant et audacieux.
Graphique, marine et blanc.
Alors je dirais décapant, sobre et classe. Comme je dis aux joueurs, avec ce maillot, on va vous remarquer. Maintenant, il vous suffit d'être beau.
Alors Michel Pastoureau, nous venons d'entendre donc cette vidéo. Quel commentaire cela vous inspire? D'ailleurs, vous souriez un peu.
Oui, j'ai consacré peut-être 15 ans de ma vie à l'étude des rayures et écrit un livre sur l'histoire des rayures, paru en 1991. Je relève en historien d'ailleurs un certain nombre d'erreurs. La rayure des marins, elle est beaucoup plus ancienne que le 19e siècle. On a un témoignage dès la fin du Moyen-Âge. Et c'est pas proprement français. Hein. Beaucoup d'autres marins ont porté des maillots rayés et des marinières. Du point de vue du football et de ce nouveau maillot, moi, il me déplaît totalement, notamment parce qu'il est tellement près du corps que je trouve qu'il n'a absolument rien de sportif. Et de l'autre, c'est vrai qu'il y a beaucoup de rayures dans le sport, surtout dans le sport à ses débuts. Mais en football, ce sont des rayures verticales et pas des rayures horizontales. Et je crois que ça épaissit la silhouette, les rayures horizontales, pour le spectateur en tout cas. Je ne crois pas que ce soit une très bonne idée. La rayure horizontale, c'est propre au monde du rugby, pas au monde du football. Et en football, l'équipe nationale française n'a jamais joué en maillot rayé, donc c'est pas du tout un retour aux traditions. Non, moi j'étais partisan d'un retour qui aurait été un maillot bleu, bleu foncé, uni, comme on faisait pendant des décennies entre 1930 et 1960. C'est ça qui aurait été cher à mon cœur. Pense pas que ce maillot porte chance à l'équipe de France.
Et plus largement, observe-t-on un retour à la mode rétro, au vintage, comme disent les Anglais?
Oui, c'est pas le propre des sportifs, mais d'ailleurs ils n'ont pas beaucoup leur mot à dire, ce sont les équipementiers hein, qui cherchent par tous les moyens à trouver des trucs publicitaires et le retour à l'ancienne, au vintage, etc. peut être un de ces moyens. Ce qui est frappant, c'est que c'est toujours éphémère, ça dure pas, puis on change de nouveau. Et
comme la mode.
Ça va de plus en plus vite, oui. Sauf que la mode, c'est du discours, c'est-à-dire que ça concerne personne. Hein. Moi qui suis historien, je suis toujours sensible à ce qu'on voit dans les magazines de mode, et je me demande toujours si mes successeurs, dans 5 siècles, quand ils auront dans leur documentation ces magazines de mode, est-ce qu'ils croiront vraiment qu'en 2011, on était habillés comme ce qu'on voit dans les magazines de mode, alors que personne, absolument personne ne s'habille comme ça.
Oui, ça ne concerne qu'une infime partie de la population.
Même pas 1% de la population. Donc, c'est très intéressant, hein. C'est même passionnant. Mais ça n'est pas le vêtement qui est vraiment porté. On a l'impression qu'aujourd'hui, sur les terrains de sport, on cherche quelque chose. Ça cafouille depuis une quinzaine d'années. On a rompu avec un certain nombre de traditions, mais on n'a rien créé de nouveau à la place.
On vient d'évoquer la marinière des tricolores, donc à rayures horizontales. Mais d'autres maillots ont des rayures verticales, beaucoup d'ailleurs, entre autres le Barça, le Milan AC, on en a parlé. Qu'est-ce que révèlent ces rayures au point de vue historique ou sémiologique?
Alors, historiquement, elles sont là parce que on a introduit la couleur dans des pièces de vêtements qui touchaient le corps. Pendant des siècles et des siècles, en Europe, tout ce qui touchait le corps devait être blanc, pour des raisons à la fois hygiéniques et morales. Puis quand le sport est apparu, on a eu sur la peau de la laine ou du coton qui ne pouvait pas rester tout blanc. Alors on a introduit des couleurs, mais on ne pouvait pas introduire la couleur toute seule, violente comme ça, d'un seul coup, monochrome. Donc on l'a brisée en l'associant au blanc, par le trucage de la rayure. Blanc plus une couleur. Ça explique une partie des origines de la rayure sportive. L'autre partie vient de ce que les emblèmes et les tenues de sport sont souvent, on l'a dit, héraldisées. Et en héraldique, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de rayures. Donc on est passé de l'armoirie, de la ville, du mécène, du protecteur du club, du collège, vers les tenues de sport. Donc il y a une double origine de cette rayure sportive qui donne aux sportifs un aspect ludique, signalétique, mais aussi dynamique, cinétique. La rayure, ça bouge, la rayure, ça va vite, la rayure, ça fait du rythme, c'est presque musical même. Et donc, 15 joueurs sur un terrain de rugby en maillot rayé ou 11 footballeurs, c'est comme une espèce de composition musicale en maillot rayé. Et c'est beaucoup plus dynamique qu'en maillot uni.
Autre héritage, je crois, ancien, pour certains clubs, comme le Milan AC, par exemple, ces couleurs sont liées aux couleurs de la ville et même à un quartier de la ville, je crois. C'est assez fréquent.
Fréquent, peut-être pas, mais ça existe. Les historiens le savent, les acteurs et les spectateurs sur les terrains de sport ne le savent pas, mais il y a des couleurs ou des emblèmes qui remontent très très loin dans l'histoire. À Milan, par exemple, les deux grands clubs de Milan en football, le Milan AC et l'Inter de Milan, avec leurs maillots rouge et noir et bleu et noir, portent chacun les couleurs de deux bannières, de deux quartiers de Milan, déjà documentées au XVe siècle. Donc, ces combinaisons de couleurs pour deux zones de la ville de Milan ont traversé les siècles et sont arrivées sur les terrains de sport. Personne ne le sait, dans les stades, mais les historiens, eux, le savent, et ça n'est pas, en effet, un exemple unique. Marseille, par exemple, qui joue avec un maillot bleu et blanc, s'est hérité des couleurs des armoiries de Marseille, qui sont documentées depuis la fin du XIIIe siècle, ça n'est pas rien.
Comme Milan ou comme Marseille, bon, la ville de Paris a ses couleurs rouge et bleu, je crois. Le PSG, le club de foot, les a conservées jusqu'à présent, mais le Stade français, lui, a tourné casaque, voilà 6 ans, en arborant un maillot rose.
Oui, le Stade français, vieille équipe de rugby qui pendant un siècle a joué en rouge et bleu, est passé au professionnalisme. De nouveaux dirigeants, de nouveaux sponsors sont arrivés qui ont voulu tout changer, ont abandonné le maillot traditionnel et ont choisi, pour faire les malins sans doute, le rose qui était absent sur les terrains de rugby. C'était une provocation et je ne sais pas si ça a été fait exprès, mais le sponsor principal du Stade français, jusqu'à des dates récentes, était la firme de téléphonie Orange. Ce qui fait que sur ce maillot rose, il y a écrit en lettres énormes devant et derrière « Orange ». Voilà qui intéressera les archéologues des temps futurs, un maillot entièrement rose, à dominante rose, avec écrit « Orange » dessus. Ça laisse perplexe.
Oui, c'est un petit peu, bon, à toute proportion gardée, comme quand la France rencontre l'Italie à l'extérieur et que les supporters français scandent « Allez les Bleus » dans les tribunes, encourageant ainsi en fait les Italiens, parce que les Français jouent en blanc à ce moment-là et les Italiens en bleu.
Voilà, oui, il y a des ambiguïtés de ce genre, mais notre vie quotidienne est faite de ces ambiguïtés. Nous, tous les jours, nous disons vin blanc pour un vin qui n'a absolument rien de blanc, mais alors vraiment rien du tout.
Tout à l'heure, vous avez dit, à propos justement de ces changements de couleurs, etc., vous avez parlé de mythologie. Alors, je voudrais citer un passage des couleurs de nos souvenirs, votre dernier livre. « En sport, la nouveauté tue la mythologie. Or, sans mythologie, pas de sport véritable. Changer la couleur séculaire du maillot d'un club traduit toujours un échec et se révèle parfois suicidaire, ou du moins contraire aux intérêts du club concerné. » Vous écriviez cela à propos justement du Stade français.
Oui, c'est quelque chose que je pense très fortement, mais peut-être parce que je suis déjà relativement âgé. Mes neveux qui s'intéressent au sport et qui ont une trentaine d'années pensent assez différent de moi. Et mes filles également, qui s'intéressent au sport, me traiteraient de vieux ringard si je tenais devant elles des propos de ce genre.
Et d'ailleurs, il y a un autre exemple de l'apparition dans les années 80 d'un logo rouge sur le maillot noir des All Blacks qui avait été imposé par la marque de bière qui les sponsorisait alors. Et ce fut une véritable souillure qui ternit l'image des All Blacks. Mais à ma connaissance, elle a disparu depuis.
Elle a disparu, oui. C'est assez réjouissant parce que ça montre que la tradition et la mythologie sont plus fortes que tout l'argent que peut apporter un sponsor.
Mais malheureusement, je vais vous contredire, il y a le nouveau maillot du Barça qui, pour la première fois dans l'histoire du club, aura un sponsor sur son maillot et qui renonce ainsi à sa virginité commerciale. Mais sans doute que les 30 millions d'euros que versera chaque année au club le généreux donateur valaient bien un maillot.
Oui, c'est tout le problème de la prostitution mercantile sur les terrains de sport, ça existe maintenant un peu partout. Il faut faire avec, bien sûr, le sport ne peut pas être immobile. C'est un problème, de dosage, qu'est-ce qui est admissible et qu'est-ce qui ne l'est pas.
Après les maillots, passons au terrain. Le rugby, comme le football et bien d'autres sports, ça n'aura échappé à personne, se joue sur un terrain vert. Mais ce que l'on sait peut-être moins, c'est que le vert est depuis très longtemps la couleur du sport et du jeu.
Oui, quand on pense vert, nous aujourd'hui on pense nature, végétation, écologie. Ça n'est pas tellement ancien, non pas que la végétation n'ait pas été verte dans les sociétés anciennes, mais quand on pensait nature, on ne pensait pas végétation. On pensait à autre chose, à l'eau, à l'air, au feu, à la terre, aux quatre éléments. Donc la symbolique de la couleur verte, elle était à chercher ailleurs, et elle avait à voir avec le destin, le hasard, l'enjeu, le jeu, la chance, l'argent. C'était tout ça qui faisait la couleur verte. Et notamment, les duels, les tournois, les compétitions, dès le Moyen-Âge, se déroulent sur des surfaces vertes. Et le sport, à ses débuts, a continué cette habitude, avec l'herbe, naturellement, des terrains de plein air, mais aussi des terrains d'intérieur. Les tables de ping-pong pourraient très bien ne pas être vertes. Mais comme il y a l'enjeu d'une partie, il y a une compétition, eh bien, c'est le vert qui est choisi comme couleur de surface. On a fait de timides essais pour avoir des tables de ping-pong ou des terrains intérieurs bleus ou d'autres couleurs, mais le vert reste dominant. Le vert, c'est la couleur d'un enjeu. D'ailleurs, on dit aussi que le destin d'une entreprise peut se jouer sur les tapis verts des conseils d'administration de l'entreprise, etc. Ça va très loin, cette symbolique de la couleur verte.
Donc, il y a une parenté, justement, symbolique entre les terrains de sport et puis les terrains de jeu, le jeu de société.
Oui, aussi.
Tapis de jeu.
Depuis la Renaissance, on connaît des casino, ou ce qui en tient lieu, et des joueurs de cartes ou des joueurs de hasard, et tout se passe sur des tapis verts. C'est encore le cas. D'ailleurs, la langue verte, en français, l'argot, la langue verte, c'est la langue à l'origine des joueurs de cartes. Le jeu a beaucoup à voir avec la couleur verte.
Et dans votre dictionnaire des couleurs de notre temps, qui était paru en 1992, vous concluez le chapitre sur le vert en disant « Longtemps encore, les terrains de football resteront verts ». Alors, est-ce une lapalissade ou pourquoi dites-vous ça? Bon, évidemment, il y a un peu d'humour, mais...
Oui, parce que j'ai un peu peur qu'on ne respecte pas cette prophétie.
Vous croyez qu'on va l'éteindre?
L'équipe de football professionnel de Nancy s'est offert un magnifique terrain synthétique dont tous les joueurs se plaignent d'ailleurs. Et on a réfléchi assez longuement pour savoir si on gardait la couleur verte, celle de l'herbe, ou si parfois on pourrait pas changer la couleur. Finalement, sagement, on a gardé le vert, mais le risque n'est pas passé loin de jouer sur des surfaces jaunes ou bleues.
Alors, il y aurait bien d'autres couleurs, le rouge, on en a parlé un peu, le jaune à évoquer, mais le temps presse. Alors, je voudrais terminer en parlant un petit peu de la recherche historique sur le sujet, sur les maillots sportifs et au-delà, sur les couleurs dans le sport. Où en est-on à l'heure où nous parlons? Avez-vous vous-même projet d'écrire sur le sujet? Parce que je crois que c'est un petit peu... Il n'y a pas d'études, enfin, sur le sujet.
Oui, la situation n'est plus celle que j'ai connue, moi, quand j'étais étudiant et jeune chercheur. C'est-à-dire que personne en milieu académique ou scientifique ou universitaire s'intéressait au sport. Donc il y a eu des progrès, il y a maintenant des historiens du sport, des sociologues du sport. Le sport est le fait de société aujourd'hui qui secrète le plus grand nombre d'archives, à la fois écrites et figurées, et même orales. Donc ça n'est pas rien, hein. C'est un fait de société à part entière très très important. Donc il faut s'y intéresser sérieusement. Pour ce qui est des problèmes que nous avons évoqués dans cette émission, malheureusement, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous les yeux. Peu d'études, donc l'histoire des maillots, l'histoire des emblèmes, simplement des recensements, des catalogues, des corpus, ça manque. Et bien sûr, au-delà des recensements et des corpus, des études plus approfondies, plus ambitieuses. Donc ce sont des champs immenses qui sont ouverts, la documentation existe, elle est même extrêmement abondante, les problématiques existent, il manque... Les chercheurs, les jeunes chercheurs, je pense, ont là des voies tout à fait fructueuses et aujourd'hui très respectables pour pratiquer l'histoire, la sociologie, l'ethnologie, la sémiologie, et bref, tout ce qui relève des rapports entre couleurs et société.
Et est-ce que parmi vos étudiants, certains s'intéressent à ces sujets?
Voilà, alors il y a deux axes, l'un proprement sportif autour de l'histoire des pratiques et des compétitions sportives et des couleurs présentes sur les terrains de sport, l'autre autour spécifiquement du vêtement de sport et de ses rapports avec le vêtement du commun des mortels, toujours autour de ces problèmes sport et société, couleur et société.
Eh bien, merci Michel Pastoureau d'être venu jusqu'ici, ce fut un plaisir. Vous ne m'en voudrez pas de ne citer que deux de vos livres sur lesquels je me suis appuyé pour préparer cette émission. D'abord, les couleurs de nos souvenirs, paru aux éditions du Seuil en 2010. Et puis, le dictionnaire des couleurs de notre temps, chez Bonneton, en 1992. Pour une plus ample bibliographie, je vous renvoie, amis auditeurs, à l'article qui accompagne cette émission. À la technique aujourd'hui, Steve Dineka. Merci, Steve. Je rappelle enfin les dates de la Coupe du Monde de rugby. Elle se déroule du 9 septembre au 23 octobre 2011, en Nouvelle-Zélande. Au revoir.